Mes frères bien-aimés, en prononçant cette parole, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Christ confirme un fait que nous ne pouvons que constater. Aujourd'hui, être chrétien n'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et pour l'être, il faut véritablement être attiré par le Père. Malheureusement, et c'est là encore une parole de notre Seigneur, personne n'a jamais vu le Père. Aussi, le Père ne peut attirer personne à lui. Du moins directement. Il se doit de passer par des intermédiaires. L'intermédiaire par excellence, c'est bien sûr le Fils qui, et c'est lui-même qui nous l'a révélé dans un autre de ses discours, ne peut rien faire de lui-même et accomplit seulement ce qu'il voit faire par son Père. Aussi, en observant le Fils agir sur terre, les habitants de son époque ont réellement aperçu le Père et ont réellement été séduits par lui. Oui, c'est par le corps charnel et historique du Christ que le Père a amené les hommes à lui. Mais maintenant, le Christ est bien mort, n'est-ce pas? Il est bien monté au ciel. Comment le Père peut-il alors encore conquérir des hommes? Eh bien, non plus à travers le corps charnel et historique du Christ, mais à travers son corps spirituel et éternel, autrement dit, à travers son Église dont nous sommes les membres. C'est donc de nous, de chacun d'entre nous, que notre Père du ciel a besoin pour emporter les hommes au paradis. Ce n'est pas inouï, ça, mes frères? Cela doit complètement transformer l'idée que nous nous faisons de notre existence. Nous sommes indispensables au succès de Dieu dans les cœurs. Et si le succès n'est pas au rendez-vous, il ne sert à rien de se dire « Les gens ne sont pas portés vers Dieu, mais ce n'est pas de notre faute ». C'est parce qu'ils sont encroutés dans leur péché. Non, mes frères. Le Christ annonçait la même chose que nous, et pourtant, il était recherché par les publicains et les pécheurs. Si ces derniers ne nous poursuivent pas, c'est donc que notre manière d'incarner la foi les rebute. Et cela ne peut plus durer. Aussi, nous allons examiner ensemble les paramètres de nos vies qui peuvent attiser, ou au contraire refroidir, les êtres non-croyants que nous côtoyons. Et puisque nous ne pouvons pas tout traiter en une homélie, je vais me limiter à un aspect de notre existence qui est capital, car c'est le premier que les gens hors de l'Église aperçoivent, et c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec eux. Vous l'aurez compris, je veux parler de notre apparence physique. Pour cela, je fais appel à la spécialiste des spécialistes, l'immense modiste Coco Chanel. Cela vous étonne peut-être ? Mais je ne fais là que suivre le conseil que saint Thomas d'Aquin donna à l'un de ses jeunes disciples afin d'acquérir le trésor de la sagesse. « Quand tu entends une vérité, lui disait-il, ne tiens pas compte de la personne qui la prononce. Contente-toi de retenir cette vérité. » Aussi, nous n'allons pas étudier la sainteté de Coco Chanel, mais prendre ce qui est bon dans ce qu'elle a exprimé. Et si j'insiste sur notre apparence physique, c'est d'ailleurs à la suite d'une de ces observations judicieuses. Vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Cela tombe sous le sens, n'est-ce pas? Il nous faut donc travailler à notre première impression qui est, avant nos paroles ou nos actes, notre apparence. Je voudrais avant tout régler son compte à une idée vieille comme le monde qui risque de faire croire à la majorité d'entre nous qu'elle est incapable d'attirer qui que ce soit. Cette idée, la voici, pour séduire, il faut être beau comme un dieu. Autrement dit, il faut avoir l'aspect idéal d'un top modèle et l'habillement onéreux d'une vedette. Laissez-moi vous le dire tout de suite, c'est totalement faux. Regardez ne serait-ce que les stars du cinéma ou les chanteurs. Certes, il y en a des sublimes, mais la plupart d'entre elles sont totalement banales comme nous. Et si vous préférez les saints, ce que j'espère, là encore, il y en avait de superbes, mais la plupart ne correspondaient pas du tout aux critères de beauté de leur époque. Je ne sais pas si vous connaissez le bienheureux Jacques Alberion, un prêtre qui a vécu au XXe siècle. Il avait des lunettes. Il avait une calvitie avancée. Il était bossu à cause d'une scoliose d'enfer. Il avait une dentition qui ressemblait plus à un champ de bataille qu'autre chose. Et pourtant, tout cela ne l'a pas empêché de fonder plusieurs congrégations composé de plus de 10 000 membres et de lancer de nombreuses revues tirées à des centaines de milliers d'exemplaires sur le territoire italien. En fait, la beauté n'est pas d'abord une question de traits. Selon Coco Chanel, c'est une science architecturale et donc une question de proportion. En d'autres mots, si vous avez deux yeux, deux oreilles, le nez au milieu du visage et une bouche, c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être charmant. Ne pensez pas non plus que la beauté est une question d'âge. Personne n'est jeune après 40 ans, reconnaissait Coco Chanel, mais on peut être irrésistible à tout âge. Et c'est bien vrai. Vous aurez d'ailleurs remarqué que les vieillards ont souvent un visage et des yeux d'un éclat inimitable. Avant de parler de choses concrètes, car nous allons y arriver aux choses concrètes, je voudrais aborder un point qui, loin de travailler à notre attrait, engendre plutôt notre rejet. Je veux parler de l'uniformité. Allez chez les non-catholiques et vous verrez tout de suite ce qui les répugne. « Vous pensez tous pareil, me disent-ils. Vous vous habillez de la même manière. En gros, vous êtes tous identiques. » En vous regardant, chers frères, je me dis que ce n'est pas vrai. Mais il y a tout de même une part de vérité dans cette affirmation. Notre milieu catholique, qui ne devrait pas être un milieu, souffre d'une certaine uniformité, nous ne pouvons le nier. Or, l'uniformité va à l'encontre d'une vérité théologique évidente mais fondamentale, à savoir que notre Créateur nous a tous créés différents pour que nous le restions. Il est contre le clonage, contre la monotonie. La beauté, assure de son côté Coco Chanel, commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Et elle n'a pas tort. Mes frères, chacun de nous est un joyau qui doit briller d'un éclat particulier dans ce monde et qui doit lui donner une part unique de l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons de distinct qui nous rend intéressants les uns pour les autres. Soyons donc originaux et pour cela, mettons de côté l'uniformité qui rejette tout ce qui ne correspond pas à ses critères. En résumé, dans nos communautés, que chacun suive ses désirs et laisse les autres suivre leurs désirs qui ont été déposés en eux par leur Créateur. D'autant que, et c'est là encore une remarque de Coco Chanel, les temps difficiles suscitent un désir instinctif d'authenticité. Sur de nombreux plans, nos contemporains n'ont plus envie de jouer au mouton. Dès lors, nous devons accepter que nos églises ne soient plus remplies de moutons qui se ressemblent tous, mais plutôt du troupeau d'hiver qui a envahi l'arche de Noé. Et maintenant, plongeons dans le concret et parlons propreté. Quelle joie que d'être assis à côté d'un paroissien qui n'a pas changé sa chemise depuis 3 jours. Quelle joie que de se confesser à un prêtre qui a mauvaise haleine et qui ne connaît apparemment pas l'existence du déodorant. Mes frères, nous avons tous connu ce genre de situation. Eh bien, cela nous décrédibilise complètement. Je vous rappelle que depuis notre baptême, depuis que notre front a été marqué par le Saint-Crème, qui est composé d'un baume à l'odeur savoureuse, nous avons pour mission de répandre la bonne odeur du Christ partout où nous passons. Si notre odeur corporelle est écœurante, nous ne pourrons jamais faire sentir la bonne odeur de notre âme. Nous sommes des êtres incarnés, ne l'oublions pas. Coco Chanel avait pour habitude de dire qu'une femme qui ne se parfumait pas n'avait pas d'avenir. J'approuve, et cela vaut également pour les hommes. Certains vont alors me rétorquer que le curé d'Ars, à la fin de sa vie, se lavait si peu qu'il avait des croûtes apparentes dans ses cheveux. Je répondrai simplement qu'il s'agissait de la fin de la vie du curé d'Ars et que dans tous les cas, je laisse ses croûtes au Saint-Curé et à son siècle, qui était bien moins salubre que le nôtre, ce 21e siècle où même les toilettes sont remplies d'eau propre. Nos latrines sont impeccables, que nos corps le soient aussi. Un autre point important concerne notre manière de nous vêtir. Selon la Genèse, les premières tuniques que l'humanité a possédées ont été fabriquées par Dieu lui-même pour Adam et Ève. Si nous voulons suivre l'action du Créateur, nous devons donc en prendre soin. Et une raison supplémentaire de le faire nous est donnée par l'inusable Coco Chanel. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Mes frères, si la première réaction des gens en nous voyant est de se dire « Elle est vraiment habillée comme au siècle dernier » ou « Il n'a absolument aucun goût vestimentaire », nous avons déjà perdu la partie. Car l'attention est alors portée sur notre aspect extérieur et non sur le message intérieur que nous voulons faire passer. Nous disons que nous sommes des fils de Dieu et des filles de roi, eh bien, montrons-le. L'évangélisation commence déjà là. Au cours d'une interview, Coco Chanel a déclaré « Je ne comprends pas comment une femme peut quitter sa maison sans se regarder quelques secondes, au moins par politesse pour les autres. » D'autant qu'on ne sait jamais, c'est peut-être aujourd'hui le jour où tu as rendez-vous avec le destin. Et pour rencontrer le destin, le mieux est d'être aussi joli que possible. Mes frères, tous les matins, nous devons nous dire que nous allons peut-être rencontrer une âme à présenter à Dieu. Or, quand on paraît devant le Très-Haut, il convient d'être élégant. Un dernier aspect physique important est le visage. Puisque c'est là la partie de notre corps que les autres voient le plus souvent. Mais plus profondément, si le visage est essentiel, nous explique Coco Chanel, c'est parce qu'il est un miroir où se reflètent les mouvements de la vie intérieure. Aussi, conseillait-elle, accordez-lui beaucoup de soins. Par conséquent, tout le monde a le droit, et nous, en tant que chrétiens, nous avons même le devoir de prendre soin de son visage pour le rendre agréable aux autres. Le maquillage, les bijoux et même certaines opérations, tout cela est bon. Bien évidemment, il ne faut pas en abuser. N'oublions pas que tout va finir en poussière. Mais en attendant ce moment indésirable, faisons ce qui est en notre pouvoir pour rendre notre figure gracieuse aux autres et à soi-même. Mais au-delà de toutes ces questions qui, encore une fois, ont leur importance, ce qu'il faut rechercher, c'est ce que l'on appelle communément l'aura, cette intensité d'être qui, au-delà des traits et des habits, dégage une paix et une lumière qui ont une force d'attraction unique. Notre chère couturière française va dans ce sens. On parle de soins physiques, mais où sont les soins moraux, demande-t-elle. Les soins de beauté doivent commencer par le cœur et l'âme, sinon les cosmétiques ne serviront de rien. Car l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Tout est dit, n'est-ce pas? Ce qui constitue notre beauté et qui, à travers elle, conduit les âmes au Christ, c'est avant tout notre densité d'âme. C'est l'intérieur qui donne sa valeur à l'extérieur. Coco Chanel allait jusqu'à dire que les beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse. Ce ne sont pas ceux qui sont parfaitement dessinés, ce sont ceux qui sont animés par une âme débordante de bienveillance. Et oui, nous savons bien, la beauté ne réside pas seulement dans le corps, mais dans l'usage que l'on en fait. Si nous l'utilisons pour aimer, il sera aimable. Si nous l'utilisons pour détester, il sera détestable. Mes frères bien-aimés, j'espère qu'à travers tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas choqué. Tous ces points peuvent vous paraître futiles, mais croyez-moi, ils ne le sont pas du tout. Nous sommes des humains, que voulez-vous? Le mot de Pascal est, je crois, plus adapté que jamais. Qui veut faire l'ange, fait la bête. Qui veut faire l'ange sur le plan du corps, en le considérant comme inutile et en le négligeant, ressemblera très rapidement à une bête. Il est bien sûr entendu, chers frères, que tout cela ne va pas produire des miracles et que l'essentiel du travail, c'est notre charité sincère et la grâce divine qui le font. Mais il n'empêche, il nous revient de mettre de notre côté tous les éléments humains qui peuvent attirer les êtres, car nous devons les évangéliser de manière humaine. D'autant que si nous rebutons, nous tuons dans l'œuf le travail de l'Esprit-Saint. Comme le remarquait François Mauriac, le chrétien n'est jamais indifférent, il attire ou il repousse. Soyons donc du côté de ceux qui attirent, et pour cela, n'ayons pas peur d'utiliser ce que l'agencement naturel et l'intelligence humaine mettent à notre disposition. Un jésuite français d'une finesse intellectuelle rare, Yves de Mancheuil, a affirmé dans un de ses livres qui traite des problèmes de la vie spirituelle « Rien n'est beau et attirant comme cette souveraine liberté du saint qui, pour la gloire de Dieu et le bien de ses frères, use sans contrainte et sans être captif de la création, cette création où les autres s'enlisent. Ce sont les prémices de la vie ressuscitée. Mes frères, soyons attirants par notre juste usage de la beauté de ce monde et de nos corps. Amen.